Nous relisons donc ensemble dans l'évangile de Matthieu, toujours, que nous, dont nous suivons la lecture cette année, au chapitre 13, les versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles, et il leur disait « Un jour, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pierreux où il y avait peu de terre. » Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses, et faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des grains tomba dans les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, les autres 60, les autres 30. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit, « Il vous a été donné de connaître les projets de salut du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse. Mais vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient, vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de personnes qui font la volonté de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez. Mais ils ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont au bord du chemin où la semence est semée. Le mauvais arrive et s'empare de ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence, ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore reçoivent la semence dans des ronces, ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole. Elle ne produit pas de fruits. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, l'autre 60 et un autre 30. Il y a des textes qui ont tellement accompagné la tradition, ont été tellement lus, relus, commentés, qu'ils risquent de devenir prévisibles. On arrive toujours dans un texte avec ce que l'on pensait déjà de lui, avant d'y retourner. La parabole du semeur est un peu de cela. Nous croyons la connaître, cette parabole, et c'est vrai, d'une certaine manière. Nous l'avons lue, relue, pratiquée. Et nous en retenons quelques images, le chemin, les pierres, les ronces, la bonne terre. Et, comme un réflexe, nous nous demandons assez rapidement dans quelle catégorie nous situer. Sommes-nous une bonne terre ou une mauvaise? Avons-nous suffisamment de foi? Sommes-nous assez disponibles? la culpabilité n'est jamais très loin avec ce genre de questionnement. Pourtant, si on observe attentivement ce récit, un détail surprend tout de suite. Le semeur ne paraît pas très raisonnable. Il sème partout, d'une manière presque inconsciente. Il ne sélectionne pas le terrain. Il ne réserve pas sa semence aux endroits prometteurs qui, pourtant, se repéraient à vue d'œil. Pas de sélection. On jette, on sème un petit peu partout. Il ne réserve pas sa semence aux endroits prometteurs. Une partie, d'ailleurs, tombe sur le chemin. On ne sème pas sur les chemins, normalement. Une autre partie de la semence sur les pierres, une autre parmi les ronces. Quel mauvais agriculteur. D'un point de vue technique, professionnel presque, cette manière de procéder est presque absurde. Elle ressemble davantage à un gaspillage qu'à une stratégie. Ça n'a pas été réfléchi. Et c'est précisément ce caractère excessif qui mérite notre attention, parce que c'est la clé probablement de cette parabole. Le récit ne commence pas par les terrains. Ça vient après. La semence est jetée, il y a ce geste, et puis ensuite il y a les différents terrains où arrive cette semence. Mais le récit ne commence pas par les terrains, il commence plutôt par parler de la générosité du semeur. Autrement dit, la vie ne commence pas par la liste de nos qualités, de nos mérites, la liste interminable de nos charismes. Elle commence par une confiance qui nous précède. Elle commence par le geste d'un semeur qui se dit « peut-être que ça ne donnera rien à cet endroit, mais je sème quand même ». C'est comme ça que commence ce texte. Par une confiance qui nous précède, une possibilité de grandir, et si ce n'est pas tout de suite, c'est plus tard. Une possibilité de comprendre, de devenir davantage soi-même, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et cette possibilité n'est pas réservée à quelques privilégiés, tout le monde y a droit. Même les terrains sur lesquels personne n'aurait jeté une graine. La question est déplacée, alors ça n'est plus pourquoi certains reçoivent-ils davantage que d'autres? Parce que vous l'avez vu à la fin, le rendement par hectare n'est pas le même. Inégalité alors, inégalité de traitement. La question devient plutôt, qu'arrive-t-il de cette générosité qui ne revient jamais en arrière, qui ne reprend pas ce qu'elle donne, quand elle rencontre une vie humaine, dans l'état où elle est? C'est bien là le véritable sujet de la parabole. Elle ne décrit pas quatre catégories de personnes. Elle décrit quatre manières dont une même parole peut être accueillie parce qu'elle est toujours lancée et disponible telle qu'elle, mais n'est pas toujours accueillie. Ces quatre terrains ne sont pas quatre personnes différentes, d'ailleurs nous le savons bien. Ils sont quatre paysages, quatre terrains qui coexistent chez nous, dans chacun d'entre nous. Il existe en nous un chemin durci. C'est cette partie de nous-mêmes qui n'écoute plus vraiment. Elle a l'habitude, les oreilles ne sont pas fermées, on entend. Mais ce n'est pas parce qu'on entend qu'on écoute attentivement et qu'on comprend. C'est la partie de nous-mêmes qui croit déjà savoir. C'est avec ce terrain-là qu'on retourne d'ailleurs vers des paraboles connues, où on réentend ce qu'on a déjà entendu. Et on se ferme à la nouveauté. Les expériences s'accumulent sans parvenir à nous transformer, puisque ça fait comme des sous-couches sur le couvercle, mais il n'y a plus rien qui rentre à l'intérieur. Les paroles glissent à la surface et nous sommes parfois tellement occupés à confirmer ce que nous pensons déjà qu'il n'y a plus rien de nouveau qui peut nous atteindre. C'est un petit peu ce qui arrive dans ce terrain-là. Ça arrive à tout le monde. Et pourtant, c'est bien la même parole, le même texte, la même parabole, la même promesse qui est faite. Cette image sera toujours actuelle. Nous savons bien que nous vivons dans un flux d'informations qui circulent à grande vitesse. Nous lisons des centaines de messages par jour. Est-ce que nous les comprenons? Est-ce que nous traitons l'information? D'ailleurs, c'est une autre question, mais nous sommes un peu assaillis par ce flux. Nous écoutons sans toujours entendre. C'est ce qui nous arrive fréquemment. À force d'être sollicité, notre attention devient une espèce de surface qui se durcit, un couvercle qui se referme. rien n'y prend plus racine. Tout ricoche, rebondit sur le dessus, comme une carapace. Le problème n'est pas le manque d'informations, c'est l'impossibilité de les comprendre toutes et d'en laisser quelques-unes, les plus importantes, entrer en nous et nous transformer. Viennent ensuite les terrains pierreux. Ici, la plante pousse rapidement. Il y a déjà un rendement, c'est déjà un succès. L'enthousiasme est réel, mais ça ne dure pas. Cette image nous parle tout autant que la précédente. D'ailleurs, nous aimons bien les commencements. Les livres qu'on commence, vous savez, dont on lit les 40 premières pages et qu'on finit par abandonner à la poussière sur une table basse. Les nouveaux projets, les résolutions, les rencontres. D'autres livres qui nous promettent de changer notre vie et puis arriver à la page 50, c'est peut-être pour ça qu'on les a abandonnés d'ailleurs. On comprend que ça n'ira pas tellement plus loin. Ici, ça pousse, mais ça pousse rapidement. Nous sommes fascinés par cette nouveauté, réceptifs puisque ça prend tout de suite. Et pourtant, transformer durablement une vie demande autre chose que de l'enthousiasme. Il en faut au début, mais il faut aussi de la ténacité. Il faut aussi surmonter les doutes, les retours en arrière, les ras-le-bol, etc., etc. Ça demande de la profondeur, ça demande du temps, de l'épaisseur. Et il en manquait. À ce moment-là, chez nous. Ça suppose d'accepter que les véritables transformations soient lentes, qu'elles prennent leur temps, alors que nous préférons, nous, les résultats immédiats. On nous y pousse aussi beaucoup. Nous supportons mal les processus longs. Il faut apprendre vite, changer vite, réussir vite, même être heureux, il faut le faire vite. Cette impatience finit par nous rendre incapables de nous habituer aux lenteurs nécessaires à toute croissance. Et puis ensuite, il y a les ronces. Jésus les décrit avec une précision étonnante. Il parle des soucis du monde, il les associe à quelque chose. Les soucis du monde, les séductions de la richesse. L'avoir, donc. Ces mots pourraient être traduits aujourd'hui peut-être autrement. Vous n'employez pas souvent l'expression « les soucis du monde ». Mais les soucis sont toutes les préoccupations qui finissent par occuper complètement notre esprit. Et là, nous avons des idées beaucoup plus précises de la manière de traduire « les soucis du monde ». Quant à l'avoir ou les richesses, ce n'est pas seulement l'argent ou les possessions même, c'est tout ce que nous finissons par considérer comme indispensable. Ça peut être très immatériel d'ailleurs, alors que ça ne l'est pas. C'est l'invasion du superflu. La liste de nos besoins n'arrête pas de s'allonger. Il faut réussir, il faut être visible, être performant, ne jamais vieillir. C'est raté. Optimiser son temps, développer ses compétences, multiplier les expériences, etc. Remplir des pages de CV pour être crédible. S'adapter à son poste pour ne pas en être dégagé. Même notre temps libre devient un projet qu'il faut meubler et gérer. Il y a même des gens qui sont payés pour s'en occuper si vous n'avez pas le temps. À force de vouloir tout vivre, on ne vit plus rien en profondeur, on vit tout en survol. Les ronces dont il est question n'ont pas détruit la plante, si vous le remarquez bien. Elles l'ont simplement étouffée, elles en ont ralenti, stoppé. La croissance à un certain stade, ça a pris, mais jusqu'à un certain point. Et si on n'enlève pas ces ronces, ça n'ira pas plus loin. Pas de mort ici, mais une croissance stoppée. La plupart de nos vies ne sont pas détruites par de grands drames. Ils existent, ils surviennent, il ne faut pas le nier. Mais nos vies sont beaucoup plus souvent envahies par l'accessoire. C'est ça qui nous étouffe. On peut être assommé par un drame, mais on est envahi par des habitudes. Ce qui est essentiel ne disparaît pas brutalement comme ça d'un coup, mais au bout d'un moment, manque d'espace. Et c'est l'étouffement qui vient. Nous ne cessons pas de réfléchir, nous sommes constamment interrompus. Nos cervelles fonctionnent bien pourtant. Nous ne cessons pas de chercher le vrai, mais nous sommes saturés d'opinions. Alors comment s'y retrouver ? Étouffement. Invasion. Les ronces dans tous les domaines poussent silencieusement, tout doucement. Elles finissent par nous étouffer. Et puis, heureusement, il y a la bonne terre. Ça marche bien de temps en temps. Ça fait du bien de s'en rappeler. C'est ici qu'on risque, une nouvelle fois, peut-être de mal comprendre le récit. Parce que si la bonne terre vient en fin de récit, ce n'est pas parce qu'on nous décrirait une courbe ascendante vers la récompense enfin méritée, enfin attendue. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques personnes exceptionnelles qui auraient eu la force, la ténacité, le courage d'arriver en bout de course alors que les autres auraient lâché en cours de route. La bonne terre, c'est une possibilité, comme les autres, comme les trois autres. Et elle apparaît chaque fois que nous devenons suffisamment disponibles pour qu'une parole puisse y produire tout le fruit qu'elle promet. Et heureusement, ça nous arrive aussi, à tous. Jésus ne parle pas d'abord de croire, ici. C'est important de le souligner. Il parle de comprendre. Il attire l'attention plusieurs fois en utilisant ce verbe, en parlant à ses disciples. Il faut d'abord comprendre ce que je vous explique. Le fruit naît de la compréhension dans cette parabole. Comprendre, ça ne veut pas dire accumuler des connaissances, faire une collection, mais que ce que nous entendons modifie réellement notre manière de vivre. C'est ça, comprendre, c'est intégrer quelque chose, et ce quelque chose change notablement la vie de cette terre, de ce qui y pousse au quotidien. Une idée n'est véritablement comprise que quand elle transforme nos décisions, nos manières de vivre. Sinon, nous accumulons des savoirs dans une cervelle qui nous sert d'archive. Mais ça ne devient jamais une occasion de changement. Nous pouvons lire des centaines de livres sur la paix dans le monde. Si nous continuons à entretenir des sentiments contraires, colère, ressentiment, les besoins de se venger, de se payer sur la bête, nous pouvons bien lire des millions de pages sur la paix. Nous n'avons encore rien compris de ce que ça signifie. Nous pouvons parler en permanence de fraternité. Si nous restons enfermés dans la compétition permanente parce que c'est ce qu'on nous demande de faire, beaucoup, nos paroles restent extérieures à nous-mêmes. Rien n'a changé. C'est ça la finesse du terrain où l'étouffement, la croissance stoppée. Des choses qui nous atteignent, des paroles qui germent et donnent quelque chose, mais n'arrivent pas à maturité. Comprendre, comme Jésus l'attend de ses disciples, c'est laisser une vérité devenir une manière d'habiter le monde, pas simplement une idée qu'on comprend et qu'on range dans un coin. Cette compréhension ne dépend pas uniquement de notre volonté, nous sommes tous façonnés par des histoires qui ressemblent à ces terrains où ils poussent des choses à une vitesse ou à un niveau de croissance assez variable, hein. Façonné par une éducation, une histoire, des accidents, des blessures, des habitudes, une certaine éducation. Et tout ça stimule, mais retient aussi. La parabole en est profondément consciente, puisque aucun terrain ne s'est choisi lui-même. C'est parce que le semeur a semé partout que chaque terrain est choisi, au bénéfice de, qu'il soit prêt ou non, c'est une autre histoire, mais chacun a reçu. Aucun terrain ne s'est choisi lui-même, le chemin est devenu chemin parce qu'on y a marché, les pierres sont là depuis longtemps, les ronds sont poussés progressivement, mais ce n'était pas une fatalité, ce n'était pas irrémédiable. C'est ce qui change profondément notre regard sur cette parabole, en tout cas, parce qu'elle nous invite à renoncer au jugement rapide. Personne n'a décrit ces terrains comme irrémédiablement ce qu'ils sont, fatalement, comme s'ils devaient éternellement rester ce qu'ils sont. Nous ne devons jamais complètement savoir pourquoi une personne est devenue ce qu'elle est. Elle est capable de changer tout de même. Nous n'agissons pas vis-à-vis de ceux que nous rencontrons comme nous plantons ce décor figé parce que ça nous arrange. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Derrière une fermeture apparente, il se cache parfois une longue histoire de blessures, mais on peut s'en relever. Derrière une impatience chronique, il y a peut-être la peur de l'échec. Derrière l'obsession de la réussite, un besoin désespéré de reconnaissance. Comprendre cela ne supprime pas notre responsabilité, mais introduit une forme de bienveillance. Personne ne pousse dans un vide Nous grandissons toujours dans un terrain déjà marqué par des influences innombrables. Il faut faire avec, mais il n'est pas irrémédiable que ce terrain reste ce qu'il est. Aucun terrain n'est définitivement condamné. La parabole ne dit jamais que le chemin restera toujours un chemin. D'ailleurs, si on y sème quelque chose, c'est peut-être qu'on veut en faire autre chose. La parabole ne dit pas que les ronces auront toujours le dernier mot. Il faut du travail pour enlever ces mauvaises herbes. Mais c'est possible. Les terrains changent parce qu'ils peuvent être travaillés avec de bons outils. Les pierres peuvent être retirées, cette terre devient autre chose. Les ronces peuvent être coupées, la terre peut retrouver une certaine profondeur, il suffit de la bêcher un peu, de l'aérer. Il faut du temps pour tout ça, de la patience, de la persévérance, mais c'est toujours possible. Aucun des quatre terrains décrits dans la parabole n'est appelé définitivement à rester ce qu'il est. Il peut devenir quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas enfermés non plus, pas plus que ces quatre terrains, dans ce que nous sommes aujourd'hui. Une vie reste ouverte, elle peut devenir plus libre, plus lucide, moins éparpillée, plus unifiée. C'est ça, se recueillir d'ailleurs, c'est refaire un morceau dans l'éparpillement du quotidien. Être moins empêché, moins encombré, cette transformation-là n'est pas spectaculaire, elle prend du temps, comme le jardinage. Elle ressemble au travail patient du jardinier, enlever des pierres, arracher des ronces, aérer un peu la terre jour après jour. C'est pas du jour au lendemain qu'on transforme un terrain stérile en terre fertile. C'est un peu notre rapport au miracle des paraboles qui doit changer aussi. Là aussi, nous sommes très pressés. Nous attendons de l'immédiateté, du brutal, de la brusquerie, de l'immédiat. Parce que tout autour de nous valorise les ruptures, les conversions soudaines, les changements radicaux. Et puis c'est tellement bien d'écouter ce genre de témoignages. C'est tellement cinégénique ou télégénique, quelqu'un qui a une rupture, quelque chose de brutal à proposer. Alors que quelqu'un qui prend son temps, une heure pour vous expliquer que sa vie a changé tout doucement, on a changé de chaîne au bout de 5 minutes. Cultiver d'abord. Le fruit vient ensuite. C'est ça qu'il faut réapprendre, la lenteur de ce processus. C'est tellement vrai que Jésus, pourtant, éprouve le besoin de leur réexpliquer. Ils ont eu la parabole, et eux, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Normalement, ils les comprennent, ils sont au bénéfice des mystères. Les autres, non, mais eux, oui. Et pourtant, il faut leur réexpliquer encore une fois. D'abord cultiver le fruit, c'est la conséquence. On passe beaucoup de temps, pourtant, à faire des projets dont nous espérons, dont nous attendons des fruits aussi rapides que possible, mais sans prendre soin forcément du terrain. Nous voulons davantage de paix sans transformer notre manière d'écouter, davantage de justice sans examiner nos propres rapports de domination. Nous voulons beaucoup de choses, mais sans nous en donner les moyens. Nous voulons plus de fraternité, mais sans ralentir suffisamment pour rencontrer réellement les autres. Une poignée de main donnée vite fait, vous savez, en passant comme ça, presque sans s'arrêter, est-ce fraternel ? Nous voulons les résultats. La parabole nous ramène aux conditions qui feront que nous obtiendrons du fruit. Elle nous invite à devenir des jardiniers lents de notre propre vie, dans un monde où tout semble s'accélérer. Le procédé comme les résultats qu'on en attend d'ailleurs, tout doit être rapide. Cultiver devient presque un acte de résistance, faire lentement, quand on nous demande de nous dépêcher en permanence, résister à la dispersion, au superficiel, la logique de l'immédiat, les illusions qui nous font croire que l'essentiel est peut-être obtenu sans patience, ce qui n'est pas possible la plupart du temps. Une bonne terre, ça n'est pas parfait, c'est simplement ouvert, et cette ouverture change tout. Une vie ouverte devient une vie féconde où il pousse quelque chose, où non seulement quelque chose est reçu, mais où quelque chose est restitué, rendu, quelque chose qui en nourrit d'autres, qui les abrite, leur donne de l'ombre. Pas parce qu'on réussit davantage ou mieux, mais parce que cette terre-là permet de recevoir quelque chose qui va circuler pour d'autres, et pas simplement pour soi. Le fruit, ça n'est jamais produit pour soi-même, comme ça, automatiquement. Le fruit sert à quelque chose, il nourrit, il se partage et il contient lui aussi des semences qui vont relancer le cycle. Vous connaissez tout cela. C'est comme ça que la vie continue. C'est peut-être finalement le cœur de cette parabole, de nous faire comprendre d'une certaine manière ce qu'est la vie et comment nous devrions la vivre avec d'autres. Nous ne maîtrisons pas toujours ce qui nous arrive, c'est comme ça, le terrain est ce qu'il est à un moment donné. Nous ne choisissons pas le terrain dans lequel nous avons commencé à grandir, mais ça peut changer aussi. Nous pouvons petit à petit apprendre à cultiver notre propre vie, reconnaître les pierres qui nous encombrent et qu'il faut peut-être dégager de là, les ronces qui nous dispersent et qu'il faut arracher à la main peut-être, patiemment, les chemins durs, durcis par les habitudes dans lesquels ne pousse pas grand-chose, nous rendre et à rendre un peu plus d'espace à notre vie, comme on aère un peu cette terre en la bêchant pour qu'elle puisse respirer, pour que quelque chose puisse prendre racine en elle. Notre rapport au miracle change si nous relisons lentement cette parabole ou que nous allons y chercher la lenteur nécessaire. Le miracle n'est plus un événement extraordinaire. C'est une lente transformation par laquelle nous découvrons, sans cesser d'être nous-mêmes, notre véritable fécondité. C'est ça le miracle. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est aussi peu spectaculaire à filmer que la pousse de quelque chose, comme si on posait une caméra dans un champ et rendre intéressant cette chose qui bouge à peine comme ça. Et c'est pourtant là qu'est le miracle. Amen.